Et les matins débutent avec le journal de Margot Delpierre. Bonjour Margot.
Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Carlos Ghosn a donné hier sa première conférence de presse depuis qu'il a fui le Japon pour rejoindre le Liban. Les explications de l'ancien patron de Renault-Nissan, accusé de malversations financières, divisent les Libanais et choquent la justice japonaise. Compte rendu de nos correspondants dans les deux pays.
Les États-Unis pensent avoir rétabli un certain niveau de dissuasion envers l'Iran. Au milieu de cette crise qui s'est intensifiée après la mort du général Soleimani, la France tente de se poser en médiatrice sans grand succès, vous l'entendrez.
Quatrième journée interprofessionnelle de grève et de manifestation aujourd'hui. La CGT veut le retrait du projet de réforme des retraites, comme la CFE-CGC. On s'intéresse ce matin à ce syndicat de cadres dit réformiste, mais qui durcit le ton. Et la question du jour, Guillaume.
Eh bien, le financement du système des retraites est-il menacé? Je poserai la question dans quelques instants à Mickaël Zemmour. Il est enseignant-chercheur en économie à l'Université de Paris 1.
2h30 de conférence de presse pour, dit-il, laver son nom. Carlos Ghosn s'est exprimé hier à Beyrouth, au Liban, où il vit désormais depuis qu'il a fui le Japon. Il n'a pas donné de détails sur son évasion, assurant simplement ne pas avoir fui la justice, mais avoir échappé à la persécution. Selon lui, je n'avais pas d'autre choix pour me protéger, a-t-il déclaré. L'ancien patron de Renault-Nissan est accusé à Tokyo de malversations financières. Il est convoqué aujourd'hui par le parquet libanais après une demande d'arrestation d'Interpol, un interrogatoire pour écouter son témoignage. Il ne risque pour l'instant pas grand-chose, mais il ne fait pas l'unanimité chez les Libanais. À Beyrouth, la correspondance d'Aurélien Colli.
2h30 de conférence de presse d'un Carlos Ghosn en pleine forme pour se défendre, sûr de lui, presque comme dans une réunion de direction. Le charisme, le bagou, la gestuelle, les mots et les arguments pour convaincre, et il a convaincu. Fouad Zmoukol, président du regroupement des chefs d'entreprise du Liban.
J'ai retrouvé le Carlos Ghosn qu'on avait perdu depuis déjà 13 mois. J'ai trouvé le même regard perçant. J'ai trouvé le même leader pour se défendre, reconstruire sa réputation. Le lion qu'on connaissait, qui est sorti de sa cage, on croyait l'avoir cassé, mais pas du tout.
Au Liban, Carlos Ghosn est le bienvenu, soutenu par les milieux d'affaires et certains politiques. Mais sa démonstration de force devant 150 journalistes n'a pas convaincu tout le monde. Diane Mokaled est journaliste indépendante.
Definitely it was a show. He's a good public speaker.
C'était un show, c'est un bon orateur, il sait se vendre. Oui, des gens étaient charmés, mais ça ne veut pas dire qu'il était convaincant. C'était surtout une campagne de relations publiques, tranche-t-elle, en rappelant que certains médias japonais n'ont pas été autorisés à assister à la conférence de presse.
Une conférence scrutée donc au Japon où rapidement la justice a réagi, Karine Nishimura.
Affirmation infondée, rien de nouveau, aucune preuve. Les commentaires au Japon étaient sans ménagement envers Carlos Ghosn qui a, je cite, bafoué la justice japonaise. Fait rarissime, les procureurs se sont fendus d'un communiqué jugeant totalement inacceptable les critiques unilatérales portées contre la justice japonaise par l'ancien patron de Nissan. La ministre de la Justice, Masako Mori, a fait pas moins de 2 conférences de presse, dont une en pleine nuit, pour dénoncer les affirmations de Carlos Ghosn.
Pour essayer de justifier son attitude, il a proféré devant les médias du monde entier des contre-vérités sur notre système pénal et sur son fonctionnement. C'est quelque chose qu'on ne peut pas du tout tolérer.
Quant aux médias nippons, ils sont jeudi matin féroces envers celui qui est considéré au Japon comme un fugitif hors la loi. Commentaire de la chaîne publique NHK.
Il n'y avait, pour ainsi dire, rien de nouveau durant cette conférence. Elle n'a rien montré de concret ni de convaincant. Cela donnait plutôt l'impression d'un monologue destiné à émouvoir.
Les citoyens, eux, n'ont guère été sensibles aux propos de Carlos Ghosn, disant néanmoins aimer le peuple japonais.
Carlos Ghosn accuse aussi Nissan de collusion avec la justice japonaise. Pour lui, son arrestation était un coup monté. Si le contenu de la conférence se limite à ça, il aurait pu la faire au Japon, a ironisé l'ancien directeur général de Nissan. La tension n'a pas disparu, mais le risque d'une escalade s'éloigne. Hier, le président américain Donald Trump a tenté d'apaiser la situation après la riposte de l'Iran sur des bases militaires abritant des soldats américains en Irak. Il se félicite que Téhéran soit prêt à la paix. Il a annoncé de nouvelles sanctions économiques contre la République islamique, mais n'a pas évoqué de réponse militaire. La situation s'était envenimée la semaine dernière, depuis la mort du général iranien Qassem Soleimani, tué par les États-Unis. États-Unis dans un raid à Bagdad. Dans cette crise, le président français veut jouer le médiateur, un rôle dans lequel Emmanuel Macron est peu convaincant, Franck Madvon.
La diplomatie française ne peut que constater les dégâts. Après 2 ans et demi de crise entre l'Iran et les États-Unis, le risque de prolifération nucléaire est redevenu majeur. L'Iran est presque sorti de l'accord de Vienne que Donald Trump a déchiré. Et Téhéran amplifie ses actions de déstabilisation du Moyen-Orient, attaque dans le détroit d'Ormuz, en Arabie Saoudite, via ses alliés, en Irak, en Syrie, au Liban, au Yémen. En clair, la médiation française n'a eu aucun effet. Paris est même accusé de s'être rangé du côté américain en ne condamnant pas le raid contre le général iranien Soleimani. Pourtant, la France s'active. Emmanuel Macron et son ministre des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, ont multiplié les coups de fil ces derniers jours. Trump, Pompeo, Poutine, Erdogan, Johnson, Merkel, les responsables du Golfe. Mais leurs appels à la désescalade sonnent creux. Seule initiative européenne, le recours au mécanisme de règlement des différends prévu par l'accord sur le nucléaire iranien. Une réunion est prévue demain à Bruxelles. La France a aussi une inquiétude majeure. La coalition internationale contre Daesh résistera-t-elle ? Plusieurs pays ont déjà annoncé leur retrait d'Irak. L'un des rares exemples de coopération avec les États-Unis au Moyen-Orient pourrait s'effondrer.
Et hier soir, 2 roquettes se sont abattues sur la zone verte de Bagdad où se trouve l'ambassade américaine. États-Unis, Iran, qui veut la guerre, qui veut la paix ? Guillaume Erner en parlera avec ses invités spécialistes des deux pays à partir de 7h40. Le Premier ministre canadien réclame une enquête approfondie sur le crash d'un avion hier en Iran, peu après son décollage de Téhéran. Tous les passagers et l'équipage sont morts, 176 personnes, principalement des Iraniens et des Canadiens. Justin Trudeau n'exclut aucune piste. Le Boeing 737 devait se rendre à Kiev. Il appartient à une compagnie ukrainienne. Téhéran refuse de remettre les boîtes noires de l'appareil qui contiennent les données du vol au constructeur américain. Si les incendies en Australie ont marqué l'actualité ces derniers jours, on a beaucoup parlé cet été des feux en Amazonie brésilienne. Le nombre d'incendies de forêt dans cette région a augmenté de 30% en 2019 par rapport à l'année précédente. Près de 90 000 foyers ont été détectés l'an dernier, 30 000 pour le seul mois d'août.
7h07 sur France Culture, la suite du journal de Margot Delpierre. C'est parti pour une nouvelle journée interprofessionnelle de grève et de manifestation.
Il s'agit de la 4e journée d'action de ce type, de la 36e journée de grève à la SNCF et la RATP. L'intersyndicale, la CGT en tête, s'oppose au projet de réforme des retraites. Elle demande son retrait pur et simple. Même revendication à la CFE-CGC. Le syndicat de cadres est traditionnellement considéré comme réformiste. Serait-il passé dans le camp des contestataires ? La réponse d'Annabelle Grelier.
Depuis son élection en 2016 à la présidence de la CFE-CGC, François Auméril assume sa volonté de sortir son syndicat du camp des réformistes. Car être réformiste, dit-il, c'est avoir une assignation à résidence. La centrale des cadres, ingénieurs et techniciens, n'est plus, depuis les lois travail, le syndicat proche des directions. Une distance avec le patronat s'est peu à peu opérée au fur et à mesure que sa loyauté envers ses cadres supérieurs s'est délitée au sein des entreprises. Des cadres qui se rebiffent et se syndiquent, et si la CFDT reste le premier syndicat dans l'encadrement, la CFE-CGC ne cesse de lui grappiller des voix. Elle reste la seule organisation syndicale à progresser avec un bond de 17% aux dernières élections professionnelles et un nombre d'adhérents en constante augmentation. Il faut dire que la CFE-CGC a durci le ton et su capter la colère des cadres. Elle attaque les ordonnances Macron en 2017, elle s'oppose à la loi Avenir Professionnel, s'offusque de la réforme assurance chômage et se braque aujourd'hui contre la réforme des retraites dont elle demande le retrait pur et simple, tout comme la CGT et Force Ouvrière. La CFE-CGC est-elle définitivement passée dans le camp des contestataires ? Elle parle plutôt d'une troisième voie, une voie militante et revendicative, et le syndicat ne rechigne plus à s'allier à la CGT quand c'est nécessaire. Comme hier, en claquant elle aussi la porte de la réunion sur la pénibilité avec le ministre de la Fonction publique, ou encore en appelant à la grève et à la manifestation, à la demande de la base, précise François Auméril, qui sera présent dans le cortège aujourd'hui.
De son côté, la CFDT, qui n'est pas contre la mise en place d'un système universel, demande l'abandon de l'âge pivot à 64 ans et maintient la pression sur le gouvernement. Les partenaires sociaux sont invités par le Premier ministre à Matignon demain pour discuter de l'organisation d'une conférence de financement, une idée à l'origine de la CFDT. Mais on est encore loin d'un accord, a estimé hier son secrétaire général Laurent Berger.
Pour la CFDT, il y a un point. une ligne rouge, j'avais dit en décembre, dans le projet actuel du gouvernement, c'est cet âge pivot qui va contraindre des gens qui ont tout leur trimestre et qui pouvaient partir à 62 ans de travailler jusqu'à 63, puis 64 ans. Et donc, nous sommes toujours en désaccord sur ce point et nous avons toujours la même revendication, c'est de retirer cette mesure du projet de loi qui va être présenté au Conseil des ministres. Moi, j'essaye d'être dans la réalité, dans l'honnêteté. Et il y a une ouverture en disant, bon, on veut bien discuter du financement. Mais pour nous, ça n'a de sens que si, au préalable, on nous dit pas, ben voilà, pour équilibrer à court terme, on fait cet âge d'équilibre qui est, encore une fois, injuste, inutile et qui est rejeté par les Français.
Le secrétaire général de la CFDT, Laurent Berger. En attendant, la grève se poursuit dans les transports. La SNCF prévoit de faire circuler 60% de ses TGV, un tiers des Transiliens et 40% des TER. D'ailleurs, les abonnements TER du mois de décembre seront tous remboursés. Pour ceux en Île-de-France qui ont un pass Navigo, la région a annoncé hier le remboursement intégral des cartes. Il faudra se rendre sur un site internet qui sera bientôt lancé. Aujourd'hui encore, les lignes de métro, pour la plupart, ne fonctionne que partiellement et aux heures de pointe. Nous sommes jeudi et comme chaque semaine, on s'intéresse aux élections municipales sur France Culture. Aujourd'hui, nous nous penchons sur le cas de Bordeaux, une ville qui n'a jamais connu l'alternance depuis la Deuxième Guerre mondiale. Mais après les longs règnes de Jacques Chaban-Delmas et d'Alain Juppé, les Bordelais aspirent-ils à du changement? Non, espère le maire sortant Nicolas Florian, issu du parti Les Républicains. Il est le candidat de la continuité soutenu par Alain Juppé.
Quand les équipes travaillent bien, il n'y a pas de raison d'échanger. Par ailleurs, c'est vrai qu'il y a une vraie stabilité sur la ville et que moi je m'inscris dans cette continuité aussi, de l'action qui a été menée et par Jacques Chaban-Delmas et par Alain Juppé. On n'est pas des dogmatiques, mais on a une certaine philosophie, c'est ce qu'on appelle l'esprit de Bordeaux. On est dans la bienveillance, dans la modération et puis aussi dans la modernité. Voilà, ça correspond à une ligne qu'on pourrait appeler politique, mais plutôt de comportement et de regard sur les autres que nous avons les uns après les autres, Jacques Chaban-Delmas, Alain Juppé, moi-même.
Et pour en savoir plus, reportage à suivre à 7h24 dans la ville sur les enjeux du logement dans cette campagne municipale. Un reportage signé Frédéric Seiss. En un mot, le temps est maussade. Pluvieux sur la moitié nord de la France, assez gris sur le sud-ouest, plus ensoleillé près de la Méditerranée. Météo France prévoit au maximum aujourd'hui 11 degrés à Strasbourg, Brest et Lyon, 13 à Lille et Paris, 14 à Bordeaux et Marseille et 15 degrés à Perpignan, Guillaume.